Ce podcast vous est présenté avec la participation des boutiques Philibert.
Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et un site internet sur www.philibertnet.com.
Nous sommes lundi 20 juin 2011 et vous écoutez Proxy Jeux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup encore une fois de nous écouter. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez joué ces 15 derniers jours. Bon, vous n'avez pas été très très sage, vous n'avez pas mis beaucoup de commentaires sur iTunes, mais c'est pas grave.
Mais si, on en a eu deux, Olivier.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Merci à Poussman qui nous a laissé un super commentaire sur iTunes en disant que notre podcast était indispensable.
Rien que ça.
Rien que ça, merci Poussman, et merci également à alors là je vais écorcher son nom, Timmy Grift, qui nous souhaite longue vie, donc merci à lui. Pour ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent pour la première fois, qu'est-ce que c'est Proxy Jeux ? C'est un podcast sur l'actualité du jeu de société moderne, c'est un podcast où on fait beaucoup de digressions, on parle de l'actualité, mais aussi de ce qu'on aime, et donc... Ça nous emmène parfois un petit peu plus loin que simplement l'actualité. Donc, dans l'épisode d'il y a 15 jours, on avait lancé un petit concours parce que mon compère Jérémy, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on était parti là-dessus.
C'est parce que j'ai lâché bêtement dans l'interview, enfin dans le podcast que je jouais à midi. Avec des collègues.
Oui, tu joues à midi. Donc
toi, t'as voulu me balancer.
Mon collègue Jérémy, qui est ici présent, qui joue à midi, à plein de jeux, notamment...
Surtout à Dominion, en ce moment.
À Dominion. On a lancé un petit concours, c'est trouver sa profession. Mais c'était pas seulement sa profession, c'était dans quel domaine, mais on peut dire ça, peut-être que...
Ouais.
Ça a été trouvé.
Ça a été trouvé, ouais, carrément.
Donc Jérémy est bien un informaticien. Par contre...
J'ai bien aimé le raisonnement. J'ai demandé des détails, puisque c'était facile de lâcher une profession. Ouais. Plus informatique dans le monde du jeu, c'est facile à trouver.
Ouais, c'est ça, on est soit prof, soit informaticien, soit voilà.
C'est tout.
Et maintenant, vous avez la première partie de la réponse. Maintenant, il faut trouver la seconde, qui est dans quelle société est embauché Jérémy. Voilà, on va vous laisser un petit peu
ça sera plus
réfléchir.
Dur, là, ils ont pas touché, ils sont loin de toucher au but. Hein.
Alors Jérémy, tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Alors, plein de choses, comme d'habitude. C'est surtout dans la rubrique écran, en fait, hein, que je suis allé piocher mes infos. Je comptais beaucoup
sur toi. On parle pas de l'actualité ludique cette semaine.
Si, mais en fait, certaines des news que j'avais, tu les as déjà mises. Je veux t'interroger sur Olympos que t'as acheté.
Oui, j'ai...
Ça marche, c'est moi qui te recevrai dans mon interview.
D'accord.
Ce soir, nous recevons Olivier qui va nous parler d'Olympos.
Oui, c'est moi.
Voilà, non, j'ai pas...
Alors d'abord, on va parler de la bataille de Westeros.
Ah bah attends, d'accord, ok.
On va commencer par le commencement. qu'est-ce qu'il y a ?
Non, je croyais qu'on annonçait un semblant de sommaire, mais ça y est,
c'est
parti.
Si. Non, mais c'est notre première rubrique. Donc dans la première rubrique actu, une toute petite introduction sur la bataille de Westeros, parce qu'on n'en a pas parlé dans notre dossier du Trône de Fer, parce que c'est un petit peu important. Ensuite, je vais vous parler de Timeline, c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Peut-être le montrer, parce que on a triché un petit peu. On vous attend tous le 4 juillet sur Internet.
Pour le live.
On a déjà des cobayes, des key users avec nous et je les en remercie. Voilà, je vais éviter de lire les commentaires. On va vous parler de Timeline, on va vous parler de Mémoire 44, à la fois dans l'actualité du jeu société, puis à la fois dans les écrans. Peut-être qu'on va vous parler de Gigamic. Ouais. Et puis ensuite, on va vous parler de... Il y a pas mal de choses dans les événements. Notamment, on a des événements qui se passent un petit peu aux quatre coins de la France. Notamment à Rouen et puis en Alsace. Donc on va vous en parler. Et puis voilà, puis comme Jérémy l'a dit, une grosse actualité sur les écrans.
Alors on y va, on est parti sur les batailles de Westeros.
On commence. Donc, Les batailles de Westeros, je ne vais pas vous en parler de façon très approfondie. Pourquoi ? C'est un jeu qui est un séquel de Battlelore qui se base sur le principe de Battlelore, qui est lui-même basé sur le principe de
Command
and Colors et de tous ses dérivés. Et où il y a un million de petites figurines en plastique faites par des petits chinois. Et là, le problème, c'est que dans les autres jeux de la gamme, bah, les figurines sont collées, donc tout va bien. Vous ouvrez votre boîte et puis c'est prêt à jouer. Ici, vous avez des socles et vous devez coller un à un tous les petits socles, enfin toutes les petites figurines sur les socles. Et c'est abominable. Les batailles de Westeros, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'affrontement à deux, qui n'est pas un jeu a priori très équilibré, c'est plutôt asymétrique, qui se passe dans le...
Ça n'a rien à voir, équilibré et asymétrique.
Oui.
Les parties peuvent être équilibrées sans que tu aies même camp à jouer. Bon, vas-y, continue.
Alors voilà. Alors...
continue.
Non, ouais. je peux pas te laisser dire. En fait, le problème, c'est que je repense à la première... au scénario d'initiation, en fait, de Battlelore. Ce scénario d'initiation de Battlelore...
Azincourt.
C'est... la bataille d'Azincourt. Alors, pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire, qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, c'est la défaite des chevaliers français contre les archers anglais. Les archers étaient peu nombreux. Historiquement, les chevaliers se sont embourbés sur le champ de bataille, ils se sont fait décimer. Donc, c'est vraiment, il y a un vrai déséquilibre. Surtout qu'il y a des cartes dans Battlelore. Il faut peut-être expliquer que c'est un jeu qui est un driven card game. Donc, on joue avec les cartes. On a parties de terrain qui sont différentes, et pour activer les unités qui sont sur telle ou telle partie de terrain, on va devoir avoir des cartes pour les jouer. Et puis après, on a des dés, on balance les dés, et c'est il y a pas mal de hasard dans ce jeu, bien que le hasard, tout comme dans Mémoire 44, peut être beaucoup nivelé par la tactique.
Ça se maîtrise, ouais.
Donc ça, c'était pour Battlelore, et voilà, ça c'était pour une petite apartie sur l'asymétrie. Puis ça tombe bien parce que ça va me permettre de vous dire ce qu'il y a de différent avec les batailles de Westeros. Déjà, ils ont oublié ces trois territoires. Enfin, le flanc droit, le flanc gauche et le centre, ça n'existe plus. Donc quand on veut activer une unité, on va activer des unités qui sont autour d'un leader. Et c'est plutôt comme ça que ça va se passer. Donc c'est un peu différent, plus tactique, parce qu'on va pouvoir activer deux fois une même unité.
En fait, c'est inspiré de certains wargames où tu joues comme ça. Tu actives les leaders et dans un périmètre, ils activent des unités. Combat de commandeur, notamment.
Un autre très bon jeu d'affrontement.
Ah oui, mais c'est pas la même catégorie.
Non, c'est pas la même catégorie. Et voilà, et puis ça se passe dans le monde, donc dans Westeros, avec dans la boîte de base, les Lannister et les Stark. Et voilà. Donc,
mais la règle est quand même plus complexe que ça. Enfin, elle introduit plus de choses.
Oui.
Que du Battlelore.
Non. Enfin, ça reste du Battlelore parce que t'as des dés, parce que tu vas pouvoir faire des choix. Mais les choix sont un peu plus fins parce que tu vas pouvoir. Enfin, t'auras ces mécanismes qui sont un petit peu différents. Encore une fois, j'en parle parce qu'on a oublié d'en parler dans le dossier du Trône de Fer. J'y ai pas encore joué, malheureusement, à cause des petits chinois qui n'ont pas collé les figurines correctement.
Bah ouais, mais.
Et voilà.
Dans les Battlelore, il n'y a pas besoin, il me semble, que tu sortes tes figurines, ça joue. Ouais.
Oui.
Il faut mettre les bannières, mais c'est tout.
Alors là, il y a un système qui est un petit peu différent. C'est-à-dire, tu as des bannières. Quand tu actives l'unité, tu vas la tourner. C'est des vraies petites bannières et tu vas les tourner. Par contre, c'est un jeu à partir de 14 ans. C'est vraiment à partir de 14 ans. Je pense que les autres, pas Command and Color, mais Battlelore, tu peux y jouer assez tôt. T'enlèves des cartes et ça peut aller parce qu'il y a des cartes qui sont un peu spéciales.
Ouais. C'est un peu plus cool. C'est un niveau au-dessus déjà de Mémoire 44. Pas beaucoup plus, mais il y a déjà un petit truc en plus.
Voilà, puis il y a plein de choses. Parce que tu peux rajouter la magie, tu peux rajouter les créatures. Et là, en l'occurrence, t'as moins de choses parce que t'as pas cet aspect magique, t'as pas cet aspect un peu ésotérique avec les créatures. Par contre, tu vas avoir tout l'aspect tactique et commandement avec des cartes qui sont un peu plus compliquées. Donc voilà. Oui, et puis on me signale quand même quelque chose qu'il faut que je dise. Alors, certains d'entre vous savent peut-être que nos cousins britanniques utilisent deux doigts pour signifier qu'ils ne sont pas très très contents. Et tu sais, Jérémy, d'où ça vient ?
Oui, c'était pour montrer qu'ils n'avaient pas eu les... Enfin, ils coupaient les doigts.
Voilà, ça vient de cette époque-là, où les Français coupaient les doigts des Britanniques. des archers britanniques.
Des archers, pour plus qu'ils puissent tirer l'arc.
Voilà, tout à fait. Et donc, en signe de dédain, les Britanniques, quand ils passaient devant les archers, les Français montraient leurs doigts en disant « Tu vois, tu les vois, ceux-là, tu les vois ?» Voilà. Et puis, Jérémy, je voulais te parler de Timeline aussi.
Ah bah, c'est super que tu m'en parles, parce que...
Tu ne connais pas.
Bah, j'avais vu le concept du jeu, mais ce que j'ai vu, c'est que t'as mis un tweet, t'as dit que c'était bien avec les enfants. Alors là, je restais très...
C'est ça.
Étonné. Et parce que le jeu en soi, enfin, j'avais l'impression que c'est un pur jeu de connaissances. Celui qui sait mieux que sa chronologie qu'un autre gagne, mais...
Alors, oui et non.
Alors, vas-y.
Donc, Timeline, c'est un jeu qui est paru chez Asgard, et qui est édité dans une petite boîte métal avec une petite gonzesse sur le dessus.
En relief.
En relief. Voilà. C'est un jeu pour de 2 à 8 joueurs. On peut y jouer un petit peu à nombreux. Ils disent donner les parties pour 15 minutes. Ça peut être un petit peu plus long si on n'arrive pas à trouver. Et puis, c'est un jeu de Frédéric Henry, pour des enfants de 8 ans et plus. Pour des joueurs de 8 ans et plus. Donc, il y a plusieurs... Je parle de Timeline aujourd'hui parce que est sorti il y a quelques semaines la boîte découverte. Moi, j'ai acheté la boîte Invention. Il y a différentes déclinaisons. Tu vas avoir les inventions, les découvertes, les événements, les monuments, la musique. Tu vas retrouver un petit peu de tout dans la première boîte, mais la première boîte est vraiment orientée vers les inventions. Donc, on a 109 cartes. Sur chaque carte, on va avoir une invention. Ça peut être l'avion, ça peut être la Forte T, ça peut être l'ordinateur portable. Et le jeu va être pour tout le monde de former une timeline, une frise chronologique. C'est comme ça que ça s'appelle.
Oui.
Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir 6 cartes devant soi, révélées. Tout le monde va la voir. Et on va placer ces cartes au bon endroit sur la frise qu'on va constituer. C'est tout. Et c'est-à-dire que quand on va... les cartes sont réversibles. Au recto, tu vas avoir le nom de l'invention. Et au verso, tu vas avoir la même image avec l'invention. Et puis, en plus, tu vas avoir l'année.
Ouais.
Donc l'idée, c'est qu'à ton tour, il y aura une carte qui va être révélée au départ. C'est le point de départ de la timeline. Ensuite, chacun va prendre à son tour une carte, va la poser au bon endroit sur la frise, va la retourner. Et s'il a raison, il ne reprend pas d'autres cartes. S'il n'a pas placé son invention ou sa découverte au bon endroit, il sera obligé de reprendre une autre carte. Alors, oui, vas-y.
Non, pour l'instant, j'en reste à un jeu de connaissances. Mais...
Alors oui, c'est un jeu de connaissances.
Et donc au fil des parties.
Au fil des parties...
Tu connais tout. Oh, 109 cartes, faut y aller, mais...
Sauf que, d'abord, si tu joues à 4, chacun va avoir 6 cartes, tu vas découvrir 24 cartes. Ça veut dire que la rejouabilité, elle est quand même... Tu vas faire 6 parties sans problème. Ensuite, comme tu vas pas avoir toujours des cartes différentes, bah, tu vas faire plusieurs parties sans retourner sur les mêmes cartes. Donc, il va falloir que tu jauges, que tu te rappelles. Donc, on peut se dire comme ça, ouais, ok, très bien... bon après c'est vrai qu'il y a des choses qui vont te rester dans la tête, il y a des dates que tu vas avoir en tête tout de suite et qui vont te rester, donc que tu vas pouvoir utiliser.
1515
Marignan ou la Révolution française. La carte de la Révolution française, je joue avec mes enfants qui ont 6 et 8 ans, ils ont aucune chance, tu vois, ils savent même pas ce que c'est. Alors, par contre moi je la place. Par contre le moulin à vent, c'est quelle date? Et puis la montgolfière, c'est quelle date?
Fin 1800. 1800. Deuxième moitié 1805, du 19e.
Ouais, 1783.
Ah bon?
Voilà.
Bah, donc c'est j'aurais perdu.
Tout à fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est surprenant, parce qu'on a vraiment des surprises. Au niveau de la réalisation, c'est très joli. C'est une boîte en métal.
Oh, mais les cartes, elles sont toutes petites, en fait.
Les cartes sont très petites.
Boîte en carton, elle est immense. Je m'attendais à des belles cartes et tout. C'est tout petit. On dirait les tailles des trains dans les Entrées du Rail.
Ouais, tout à fait. Et c'est puis dommage, elles sont pas super super épaisses. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit non plus.
Elles sont gaufrées, donc ça protège déjà pas mal.
Voilà.
Elles vont pas s'abîmer sur les côtés. Elles sont bord blanc, c'est bien.
Alors, à votre avis, le whisky, c'est quelle date?
Toujours. Pardon, c'est pas ça.
Donc, je vous laisse réfléchir et puis vous allez me dire. J'en ai parlé avec mon épouse. Elle m'a dit que de toute façon, à 6 ans, les enfants, ils avaient aucune notion du temps et que c'était absolument pas un jeu pour eux. Donc, il y a déjà un âge limite.
Je confirme effectivement.
Et on peut pas jouer. Alors que mon petit, il est tellement, enfin mon deuxième est tellement à fond sur les jeux que de toute façon il jouera à tout.
Et il jouera à tout. Mais je veux dire, Marion, mon gamin, il y a il a 7 ans maintenant, mais l'année dernière à 6 ans, son moyen de se rendre compte du temps, c'était est-ce que ma grand-mère était déjà née quand ça s'était produit. Tu vois, comme si nos grands-parents pouvaient avoir une grande vie par rapport aux événements.
Et par contre, à 8 ans, effectivement, il y a une partie, tu vas avoir le choix pour l'enfant de poser la carte, c'est à la fois ce qu'il sait. Par exemple, tiens, une ampoule électrique, il faut qu'il y ait de l'électricité. Donc, il va regarder un petit peu des inventions qui sont avant et il va essayer de juger. Mais il y a des inventions qui sont vraiment vieilles, quoi, comme le thermomètre, comme le télescope. Et lui, il ne sait pas. Et donc, c'est super difficile.
Et c'est pour ça que c'est un jeu pour les enfants ? Parce que c'est le seul jeu où Olivier bat ses enfants.
Non, non. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que tu peux parler avec tes enfants. Et tu peux leur expliquer des choses. Tu peux leur parler plein de choses. S'ils sont curieux, si toi, tu es curieux aussi... Ça permet de leur expliquer qu'effectivement, y a des choses dans notre vie de tous les jours qui sont super anciens. Et puis, il y a des choses qui sont très, très, très récentes. Et puis, de replacer un petit peu les choses.
Il y a Facebook ?
Non, il y a le jeu de rôle.
Ah ouais, ouais mais ça commence à avoir 30, ça a plus de 30 ans.
Maintenant. 74. Ouais. Oui, tu vois, effectivement, on les retient, les dates. C'est un peu un ovni. Je dirais oui, c'est un jeu. C'est pour des non-joueurs. Je pense que ça peut être super bien pour un gateway games, comme je dis. Tu sais, un jeu pour amener les gens aux jeux de société. C'est parfait.
Ouais, non, mais en plus, c'est un jeu qui a marché, hein, parce que.
Oui,
ils ont sorti un deuxième. Mais même, je crois qu'il y a un moment, il y a eu une rupture sur le premier tir.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, c'est preuve quand même que ça marche. Donc, il faudra quand même que j'essaye parce que. Écoute, je vais le mettre dans ma liste d'achats. Je vais bientôt faire des achats là, pour l'été. Ça tombe bien. Attends, il y en a qui veulent savoir le whisky.
Non, je disais qu'il y a quand même une sacrée rejouabilité sur. Parce qu'en fait, t'as 20. Enfin, si tu joues, ça dépend à combien tu joues, mais. Non, c'est 15e siècle.
Chut.
Ah, pardon.
Enfin, comme ça, ils se morfont. Mais ils attendent, ils savent pas.
Donc, il y a une vraie.
1424, le
whisky. Il y a une vraie rejouabilité dans le sens où tu n'utilises pas toutes les cartes. Et puis en plus, étant donné qu'il y a l'extension qui est sortie, on peut mixer les deux. Et plus tu vas rajouter de nouvelles cartes, et plus ça sera difficile de savoir où placer les inventions. Donc Timeline, chez Asgard, ça coûte à peu près 13€ et c'est bien.
Alors, une nouvelle qui va te plaire, Olivier ?
Ah
ah. Ah ouais, je pense.
C'est vrai ?
C'est Gigami qui annonce l'arrivée en français de 3 jeux d'un éditeur que tu as régulièrement...
Coyote.
Non.
Ah, parce que Gigami réédite Coyote aussi, qui est un très très bon jeu.
Ah, Coyote est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Non, je parlais des jeux de chez Dry My Gear.
Ah,
donc
mon éditeur pour enfants préféré.
C'est ça. Mais alors dans les 3 jeux, je vais te les nommer, tu vas me dire si tu les connais. Alors les petits apprentis magiciens. Celui-là,
ah oui, ça je le connais, puisque c'est celui dont on a parlé l'autre fois, qu'on a testé pardon, à Essen,
voilà.
Et qui ne nous a pas du tout enthousiasmé. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer.
Il faut voir la photo du matériel.
Oui, je mettrai de toute façon, comme d'habitude, la photo du matériel sur le site. En fait...
c'est des pions en bois qui...
Il y a une
support pour une bille.
Ouais, une bille est posée sur un support en bois qu'on va pousser avec un petit bâton avec une petite boule au
voilà, et le terrain est miné parce que c'est un peu aimanté par endroits. Les aimants font basculer les supports et la bille tombe. Et là, on a perdu.
Tout à fait. Et le but du jeu, c'est de mettre la bille au centre du plateau.
Voilà.
Et cela ne nous avait absolument pas...
C'est pas exceptionnel. Il y a des meilleurs jeux d'adresse, effectivement, que Drive My Gear nous a servi.
Tout à fait.
Et c'est marrant parce qu'en fait, sur tous les jeux d'enfants qu'on a testés seul l'année dernière, en 20, Gigamic les a sortis tous à peu près en fait. Les petites locaux, ils les ont sortis aussi. Heureusement, ils ont sorti Loch Ness qui est bien meilleur. Alors, l'autre
non,
jeu.
Non, mais les petites locaux.
C'est infernal.
C'est infernal, mais parce qu'on est des adultes.
40... Non, mais même sur la boîte, ils n'hésitent pas, ils mettent 45 minutes pour des enfants de 4-5 ans.
Ouais, d'accord, ok. Hein, bon, mais, c'est.
Un enfant de 5 ans qui joue 45 minutes, tu en connais pas beaucoup.
Non, faut pas.
Alors, l'autre, c'est Sacré Potion Magique. Donc, tu connais ou pas celui-là ?
Absolument pas.
Voilà, c'est. Der Verflixte Zaubertrank.
Et alors, attends, ils ont récupéré la gamme Dry My Gear,
ouais.
Et ils ressortent avec le nom allemand ?
Non, c'est sur le visuel. Ah, c'est Sacré Potion Magique en français, mais le visuel sur leur site, c'est la version. Donc, je te donnais le nom allemand, des fois, tu connaisses mieux.
Non.
Tu les connais pas. Tu me dis que t'es content de voir les Dry My Gear, tu les connais pas.
Non, je suis content parce que Dry My Gear, c'est un éditeur qui a sorti tout un tas de bons jeux et qui a été constant pendant quelques années. T'as eu les nuits des magiciens, t'as eu le labyrinthe magique, tu as eu les escaliers hantés, la forêt hantée, et tu as eu toute la série des petits jeux de poche.
Ouais, je suis d'accord.
Et en fait, cite-moi d'autres éditeurs qui ont été aussi constants, c'est quand même pas banal, quoi. Alors oui, Gigamic, en ce moment, ils font fort. Parce qu'ils ressortent plein de jeux qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien pour les enfants. y a Wasabi, il y a Cache-Mouton, il y a... Moi, je tape en ce moment dans la gamme. Ah ben, il y a Marrakech.
Ben, il y a que quasiment de toute façon.
Oui, mais il pourrait sortir de la merde. Bon voilà. Alors ça c'est. Alors le petit haussement de tête comme ça, ça veut dire oui, mais peut-être qu'ils vont le faire maintenant en fait.
Mais non, ils le font pas justement, mais parce que enfin, bon, de manière générale, quand même, il y a plus tant de jeux pourris qui sortent que ça.
Alors on me dit sur le chatroom comme Abba. Alors oui et non.
Alors Abba, le problème c'est qu'ils sortent 14 jeux par an.
Et... Les fragas sont très bons.
Non mais il y en a des biens, mais c'est pas tous les ans, et en fait ils en ont 14, et s'ils en trouvent que 10 de biens, ils vont quand même en prendre 4 autres juste pour remplir la collection, parce qu'ils veulent pas, sinon le rayon va se dégarnir au profit du concurrent. Donc quoi qu'il arrive, ils en sortent 14 systématiquement.
La quantité.
Ouais ouais, donc ils en sortent, dans les grandes boîtes, ils en sortent que 1 ou 2, mais ils sortent que ceux dont ils sont quasiment sûrs qu'ils seront nominés pour le Spiel, sinon ils ne les sortent pas. Donc c'est quand même compliqué, hein. Donc il y a vraiment une sélection assez incroyable, et le reste ça sort dans des formats plus petits. Et quand ils n'ont pas d'idées, ils recyclent des idées anciennes et puis ils les ressortent en version grande boîte. Il y a eu la pyramide des animaux et ils ont fait ça avec un fraga aussi. À vos trésors, prépartez là. Il existe dans deux formats, en moyen et en grand.
Donc en fait, ils recyclent. Ah, comme le verger. J'ai vu le verger dans des formats différents.
Le verger, c'est un peu différent. Il est sorti en grand format et puis après, c'est l'effet. On décline la gamme. Comme d'accord. Tu as les Mars, Mars Mini, Mars Glacé, Mars.
Et les magnums, il y a des petits magnums maintenant aussi.
Voilà. Là, c'est n'importe quoi, alors le petit magnum.
Oui.
C'est n'importe quoi.
C'est pas un bon concept, notre petit magnum.
En fait, Medrai Magir l'a fait aussi avec l'escalier hanté. Actuellement, il vient de sortir l'escalier hanté, jeu de cartes.
Ils ont tous fait des jeux de cartes. Il y a Ra, le jeu de cartes.
Oui, mais Medrai Magir, c'est assez nouveau. Et justement, je suis étonné, ils en sortent vraiment un paquet de jeux.
Donc c'est du marketing.
Ouais, mais j'avais pas l'impression qu'ils en faisaient autant que ça avant. Bien, on a bien dérivé.
Bon, alors vous saurez qu'il y a un certain nombre de jeux qui sortent chez Gigamic.
Le dernier, c'était le Moulin Hanté, mais c'est pareil. Geistermühle.
Non, je, ça doit être toute la...
C'est des nouveautés, je pense.
C'est les éditions de Nuremberg. C'est ce qui est sorti en février à Nuremberg. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a deux gros salons en Allemagne tous les ans. En octobre, Essen, qui est un salon public. Et puis, en février, c'est ça ? Nuremberg, qui est un salon complètement privé où professionnels où les éditeurs présentent leurs nouveautés, où on a des éditeurs, des distributeurs.
Ils présentent aux acheteurs qui font leurs commandes pour Noël, pour se donner une idée quand même. Les acheteurs des grandes enseignes, donc pas la grande récré, mais équivalent, équivalent de la grande récré, etc., vont commander à ce moment-là déjà aux éditeurs leur. Mais il n'y a pas que les jeux, il y a tout, c'est tous les jouets en général.
Oui, les jouets aussi. Heureusement, parce que sinon.
Mais a priori c'est vraiment immense, donc c'est que professionnel et c'est vraiment uniquement un business. Hein.
Ok, à suivre donc toutes ces sorties chez Gigamic. Est-ce que tu connais Angelo ?
Un petit peu.
Angelo Curatello ? Est-ce que j'écorche pas son nom ?
Il nous le dira.
C'est pas grave. Angelo, c'est quelqu'un qui tient une boutique qui s'appelle Les Chroniques Ludiques à Bruxelles. Je vais vous donner l'adresse si vous êtes bruxellois ou belge. Enfin, j'espère qu'il y a des gens, que notre podcast ne s'arrête pas à la France et que toute la francophonie écoute notre podcast.
Tu crois qu'il s'arrête à la frontière ?
Ah,
une frontière qui arrête les nuages. Mais
je n'espère pas. Alors, si amis belges et amis canadiens, québécois, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, s'il te plaît. Donc Angelo, c'est quoi, on dit comment en fait pour une boutique ? Le tenancier ?
Le gérant.
Mais de la part de...
Tu as fait trop de jeux de rôle, Medfan, faut arrêter un petit peu.
Ouais, enfin de la part d'Angelo, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit tenancier en fait. C'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30, c'est rue Van der Kinderen au 236, et puis le code postal c'est 1180 à Bruxelles, donc c'est vraiment à Bruxelles. Donc, de toute façon, vous retrouverez ces indications sur le site. Et Angelo, il ne fait pas que tenir une boutique, il a commencé à mettre en ligne la semaine dernière ses humeurs. Je suis fan.
Tu as découvert que le numéro 2, c'est déjà... En fait, c'est toutes les semaines ?
Ouais, il a décidé de faire ça toutes les semaines, c'est des petites vidéos qui durent 8 minutes. C'est une atmosphère qui est assez rigolote. Donc, une sorte de podcast vidéo en fait. Il se filme en noir et blanc avec sa pipe. Et d'ailleurs, le gros défaut du premier épisode, c'était qu'on comprenait pas tout ce qu'il disait parce qu'il avait la pipe à la bouche. Et c'est les humeurs d'Angelo. Donc c'est vraiment les humeurs d'Angelo. J'ai joué à ça, ça m'a bien plu. J'ai joué à ça, puis ça c'était un peu passé sous mon radar, et puis j'y ai rejoué. Et...
Ouais, j'ai vu son numéro 2, mais il est comme nous, en fait, il y a quelques mois, il se forme.
Et...
non mais, c'est marrant, la manière dont c'est construit, c'est comme nous, quoi, en live, hein, il improvise...
Ah oui, oui, on
s'est... Oh, je vous parlais d'Olympus, c'est un bon jeu, bon ok, mais au bout d'un moment, on se dit, quand est-ce qu'il va nous dire comment c'est fait, quoi.
Voilà, ouais, la grosse critique, à part qu'on ne comprenait pas trop, parce que mâchouiller sa pipe, ça va bien, mais des fois, on ne comprend pas, c'est qu'il était dans le survol, c'est-à-dire, j'ai bien aimé, c'est un jeu comme ça, et puis passer à l'autre, c'est un petit peu le reproche que je lui ai fait. Par contre, vraiment l'ambiance, ça dure 8 minutes, donc c'est vraiment pas long. Ça mérite le coup d'œil et ça mérite qu'on le regarde, parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu comme quand on discute, ce soit lundi soir entre nous, ou soit entre potes, où on se dit, t'as joué à quoi ? Moi, je joue à ça. Ah bon, c'est bien ? Ouais, c'est super. Ou alors, t'as joué à ça ? C'est bien ? Non, bof, c'est pas terrible. Et c'est ce que je retrouve, en fait, dans les humeurs d'Angelo. C'est ça que j'aime bien.
En tout cas, il présente dans le numéro 2 déjà 3 jeux. Il fait 3 jeux par semaine, c'est un bon...
Ah, il en a fait plus dans le numéro 1. J'avoue que je l'ai lancé tout à l'heure et j'avais plein de choses à faire et je suis pas allé jusqu'au bout. Donc voilà, ça aussi ce sera sur le site, c'est les humeurs d'Angelo, c'est très 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 bien, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il a un channel sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner, vous aurez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée.
Allez Olivier, j'enchaîne.
Enchaîne.
Alors c'est tout frais du jour.
Oui, parce qu'on est le 20 juin.
C'est le 20 juin, voilà, c'est ça. On l'a dit au début, pour ceux qui auraient déjà oublié. Alors, c'est une nouvelle campagne pour Mémoire 44. Et en plus, elle est gratuite, elle est en téléchargement libre sur le site de Days of Wonder.
Ah bon ?
Ça, c'est la bonne nouvelle.
Gratuit, c'est chez Edge...
chez Days of Wonder, ouais, ça arrive régulièrement. Il y a la fac qui est gratuite. 53 pages. Donc là, la campagne est gratuite. Elle propose pas moins de 8 scénarios.
Excuse-moi. Excuse-moi parce que je t'avais tendu une perche et en fait tu l'as pas prise.
Non. Alors donc... du coup, vraiment, tu reviens dessus.
Alors,
quoi.
Jérémy, aujourd'hui on est le 20 juin.
Oui.
C'est l'anniversaire de.
Mon frère et ma sœur.
Non, c'est l'anniversaire de la mort de Jean Zé.
De qui ?
De Jean Zé.
D'accord.
Mais c'est aussi. Bien.
C'est Google qui t'a soufflé la.
Non, c'est mes enfants, ils vont à l'école Jean Zé. C'est pour ça. C'est pour ça.
Parce que moi, c'est aussi l'anniversaire de mon frère et ma soeur. Mais ça n'intéressera pas plus de monde.
Alors,
ils ont 32 ans et je leur souhaite un bon anniversaire.
Est-ce que, alors, ma question, c'est est-ce qu'ils écoutent le podcast ?
Non, mais là,
c'est ça.
Je vais leur dire de l'écouter.
On n'est pas aidés, en fait. Hein. Bon, alors, c'est aussi l'anniversaire d'Audie Murphy. Parce que Audie Murphy, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Donc, c'est lui qui a donné son nom à la campagne dont tu vas nous parler maintenant.
Super, vas-y, coupe ma news.
C'est pas ça ?
Si, mais j'avais pas encore donné le nom.
Je te laisse.
Et donc, il y a un rapport avec Audie Murphy aujourd'hui ? Même pas, aucun.
Audie Murphy.
Mm-mm, d'accord, ok, super.
Rien à voir avec les voitures non plus.
Voilà, donc en fait, donc, la campagne, elle s'appelle la campagne d'Audie Murphy. Il y a 8 scénarios qui sont de Gide Rommel, qui a déjà fait pas mal de scénarios, dont certains ont été édités dans les carnets de campagne notamment. Il en a proposé quand même près de 200 en tout sur les sites Days of Wonder. Donc c'est quelqu'un qui sait proposer des scénarios qui sont équilibrés, qui sont testés, il n'y a pas de doute là-dessus. La preuve, c'est que si Days of Wonder lui fait encore confiance une fois pour publier cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc Audie Murphy, qui sait, en fait, c'est un GI américain. En fait, à travers cette campagne, il veut le rendre hommage à tous les GI lors de ses campagnes. Et donc, il a en fait été le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Il a eu pas moins de 38 médailles. Il a commencé comme simple soldat en 1943 et ensuite il a fini lieutenant en 1945. 38 médailles dans la médaille d'honneur. On peut penser que c'était pas un gars qui restait derrière. Le scénario, en fait, va proposer de jouer 8 scénarios qui retracent un petit peu la carrière de Audie Murphy. Les scénarios se suivent pas nécessairement, évidemment, puisque ça couvre sur 2 ans de temps. Ça demande au minimum le terrain pack et le front est. Ensuite, idéalement, bon, il faut le plateau hiver, c'est plus joli.
Excuse-moi, ça se trouve encore, ça ou pas ?
Alors, c'est difficile en ce moment de savoir.
C'est-à-dire qu'il y a certaines extensions qui sont out of stock, enfin qui sont sold out ou pas ?
Je pense. Alors, le terrain pack et le front est, je pense qu'ils sont encore trouvables. C'est à vérifier. Le plateau hiver, il a été réédité.
Putain, on va se faire engueuler encore.
Ouais, c'est pas grave. Les carnets de campagne, il paraît que c'est moins trouvable, le volume 1. Alors les carnets de campagne, s'il y en a besoin, c'est essentiellement c'est parce que dans les règles avancées de la campagne, ils proposent de jouer le mode en fait où chaque fois qu'on gagne un scénario, on a un bonus sur le scénario suivant. Bon, donc voilà.
En campagne quoi.
En campagne, mais c'est pas mal, c'est sympa. C'est pas mal d'avoir des renforts, etc. Moi j'aime bien jouer en campagne. La guerre du Pacifique, donc il faut aussi le théâtre pacifique, et puis alors Tigre des Neiges, alors Tigre des Neiges... Ça, par contre, c'est une battle map, ça doit être la troisième, deuxième.
T'es en train de dire, en fait, pour jouer
à Audi Murphy. Il y a deux minimums, c'est le terrain pack et le front est.
Donc, moi, je peux pas, toi, tu peux. Oui, là, et je pense que tous les gens qui vont nous écouter peuvent pas, c'est ça?
Si, parce que la plupart, ils ont investi. Ah, le terrain pack, c'est un must have. Après, le front est, bon, c'est plus chaud. Mais, enfin, je sais pas si le front est est vraiment. Obligatoire. J'ai pas pu les tester, évidemment, la news est du jour. J'ai pas regardé en détail les scénarios.
En fait, je vais vous laisser avec toi et l'auditeur qui a tous les scénarios pack et les extensions nécessaires. Je te laisse continuer.
Bah non, c'est l'occasion. Regardez, on vous offre une campagne. Et par contre, il faut que vous achetiez des boîtes qui vont.
Pas mal, c'est pas mal. C'est concept aussi.
C'est pas mal. Hein.
Ouais.
Alors, Alter Impact, c'est obligatoire pour quasiment tout Mémoire 44 de toute façon. Donc, les scénarios, 8 scénarios qui, a priori, n'ont rien de bien compliqué dans les règles spéciales, etc. Par contre, vu que j'ai pas pu les tester, je pourrais pas vous dire à quel intérêt ils apportent par rapport au jeu. Enfin, n'empêche, c'est toujours agréable à prendre des nouveaux scénarios. Je vais rapidement imprimer tout ça.
Je ne suis pas les sorties Mémoire 44. Je sais absolument pas comment ça se passe. On peut pas trouver des scénarios gratuits ou enfin des générateurs de scénarios, enfin des gens. J'ai l'impression que le forum est très actif. Donc,
en fait, je crois que sur le forum il y a quelque chose comme je sais pas des centaines de scénarios.
Si notre ami Gilles Romel en a proposé 200, et c'est plusieurs centaines qu'il doit y avoir.
Ouais.
Alors, on va peut-être en profiter si. Pas comme moi, mais comme certains. C'est que si certains de nos auditeurs veulent absolument investir dans Mémoire 44. Donc Mémoire 44, c'est quelque chose un petit peu plus simple que Battlelore, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt pris cette orientation parce que ça, beaucoup de choses et les créatures, ça plaisait plus à mes gamins. Et puis je suis un petit peu. On a joué à Mémoire 44, ça m'a un peu traumatisé d'expliquer la guerre aux enfants. C'est un petit peu plus facile quand il y a des haches et des épées que des tanks et des bombes. On va savoir pourquoi. Ça reste la guerre, enfin bon. Donc moi, j'ai plus pris l'orientation Battlelore. Toi, t'as plus pris l'orientation Mémoire 44. Qu'est-ce qui est intéressant d'acheter si on veut se mettre à Mémoire 44?
Dans les extensions?
Oui. Et s'il te plaît, tu vas nous donner des extensions qu'on peut acheter maintenant, s'il te plaît.
Alors ça va être un petit peu chaud.
Donc, mettez-vous à Battlelore, alors.
Non, mais... En fait, Battlelore est un cran plus complexe que Mémoire 44 et il se joue pas au même échelon. Donc c'est pour ça que, enfin, les deux jeux sont différents. Dans Battlelore, il y a plein de choses en plus. Les unités peuvent s'apporter du soutien. Il faut vraiment avancer en formation, etc. Alors que Mémoire 44, on joue sur un échelon beaucoup plus reculé, enfin une échelle plus grande. Et du coup, il n'y a pas de support entre les unités, par exemple. Donc ça se joue.
C'est moins tactique alors.
Ouais, c'est moins tactique. C'est différent parce que les, je sais pas. C'est dire à dire, mais...
D'accord.
Tu joues pas du tout de la même manière.
Et donc, qu'est-ce que je peux acheter, moi, si je me lance dans Battlelore, dans Mémoire 44, qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter? Parce que le jeu de base, il est bien, mais c'est un peu léger, non?
Le jeu de base, bah, c'est déjà bien pour découvrir le jeu. Il y a quand même, je sais plus combien il y a, le scénario, c'est pas mal.
Pour commencer à apprendre les règles, oui, tout à fait.
Ouais, voilà. Après, bon, c'est vrai que... Il y a déjà une bonne rejouabilité hein, malgré tout les jeux. Après, sinon, il faut monter. Il faut au moins le terrain pack. C'est obligatoire après parce que tu vas pouvoir trouver sur internet plein de scénarios. Donc il faudra au moins le terrain pack. Moi, je trouve que c'est bien. L'autre extension que je conseille, c'est la toute récente Winter Wars qui est sortie pour l'anniversaire de la bataille des Ardennes en décembre dernier. Mm-hmm. C'est vraiment très bien. C'est une extension. Alors, elle propose 10 scénarios, c'est pareil. Il y en a que 6 qu'on peut jouer avec la boîte de base. Après. Il faut avoir du matos en plus, quoi. Mais elle amène beaucoup de nouveautés, pas mal de nouvelles règles. Elle amène des cartes qui vont mettre un peu de chaos dans la partie. Bon, ben, on aime ou on n'aime pas.
Du chaos?
Ouais, c'est les cartes combat. Bon, c'est les cartes, voilà. Tu t'appuies sur la bonne carte ou pas la bonne carte, tu les joues quand tu veux. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça vient dynamiser un peu les parties quand même. Donc, moi, je dirais, il y a déjà au moins ça. J'aurais conseillé aussi le carnet de campagne. Mais les carnets de campagne, ils sont plus édités. Enfin, ils sont plus trouvables en ce moment, malheureusement. Donc, après, il y avait l'air pack aussi. Donc, l'air pack, ça amène toutes les règles d'avion en plus. Et la bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont un livret qui reprend les, je sais pas combien, 50-60 scénarios qui étaient sortis jusqu'ici officiellement. Et les ont remaniés à la version combat aérien. Enfin, pour introduire les avions. C'était une extension très intéressante. Mais c'est pareil, elle est malheureusement difficile à trouver.
Sold out. Ok.
Ouais, voilà. Après, ils avaient sorti aussi, en fait, c'était plutôt au début des sorties, les packs armés. Donc, les packs d'armée, tu avais le front ouest, donc c'est avec l'armée soviétique. Ils ont sorti ensuite, il y a eu le théâtre pacifique et puis il y a eu le front méditerranéen. Donc, pacifique, c'est avec les japonais et le méditerranéen, c'est avec les anglais. À chaque fois, dans cette extension, il y a les figurines en plastique de l'armée à jouer et puis des nouveaux scénarios. Dans ces extensions, le front de l'est, je dirais qu'il y a beaucoup de scénarios en fait qui utilisent le front de l'est. Donc, voilà. C'est bien de l'avoir, il introduit les hexagones.
Donc si on peut trouver, on saute sur le front de l'Est. Sans mauvais jeu de mots.
Ouais. moi, j'ai pas trop joué encore avec le front de l'Est, donc je peux pas, hein, je peux pas être sûr. Hein.
C'est dramatique. Je suis en train de regarder sur Ocaso, il y a rien.
De quoi
à croire que
les gens les vendent pas, ils les gardent.
Ouais, c'est incroyable.
Ça se vend pas, non, malheureusement. Il faut les choper en fait. Bah, moi je les ai achetés au fil de l'eau et c'est le seul moyen de les avoir. Mais c'est vrai que quelqu'un qui découvre le jeu alors qu'il a 7 ans, c'est chaud. Hein.
Ok. Bon, bah écoute.
L'autre Army Pack, c'est le Théâtre Pacifique qui amène vraiment par contre un peu de nouveauté. Je pense qu'il vaut mieux prendre celui-là que le Front de l'Est. Et puis alors, un truc après, alors pour ceux mecs qui sont déjà tellement engagés dans le jeu qu'à mon avis ils ont déjà acheté ça, c'est les cartes. Ils ont sorti des nouvelles cartes. Alors il y a le plateau hiver désert, bon c'est juste pour faire joli, on s'en fiche de cela. Les vraies, c'est les cartes Breakthrough. C'est les cartes, elles sont beaucoup plus profondes en fait. Elle se joue sur un plateau. Donc du coup, tu joues à deux niveaux. Enfin, tu joues sur le front et puis tu as les unités en renfort derrière. Et dans l'extension Winter Wars, il y a des cartes spéciales pour jouer sur Breakthrough qui permettent, en plus de faire bouger et tirer des unités, de déplacer simplement quelques unités. Mais ça rend du coup les parties beaucoup plus intéressantes, très dynamiques. Tes unités beaucoup plus mobiles. C'est très, ça amène vraiment une vraie dimension supplémentaire au jeu. Donc voilà, voilà les extensions, on va dire. De préférence
d'accord.
À trouver. Par contre, c'est pareil, est-ce que le Théâtre Pacifique est encore disponible? J'en sais rien du tout.
Bah non, enfin, tout ce que j'ai regardé, j'ai fait chou blanc, hein, ça marche pas.
Ouais, voilà. À noter aussi, puisqu'on en est à Mémoire 44, alors pas eu le temps de lire ici parce que c'est sorti il y a quelques jours, c'est le livre, le guide tactique et stratégique de Mémoire 44 d'Alexis Beuve. Qui est sorti chez Praxeo, je crois, c'est sa maison d'édition. En fait, il est auteur-éditeur. C'est un livre qui revient.
Excuse-moi, c'est pas Days of Wonder qui le sort.
Peut-être que c'est Days of Wonder qui l'a édité, mais il me semble pas. Il me semble que le gars, il a sa propre maison d'édition. En fait, il a sorti des livres sur d'autres jeux aussi.
Non, mais c'est pas complètement crétin. Hein. C'est pas.
Ouais, non, c'est un passionné. Il parle aussi dans ses bouquins du Go, du poker, des choses comme ça. Il a pas mal de. Son site est intéressant. Et donc dans son livre,
excuse-moi, tu m'enverras. Il faut que tu m'envoies tout ça.
Bah évidemment.
Pour que je le mette sur le site. Donc toute la liste des extensions incontournables et puis le site de ce monsieur.
Et voilà, donc dans le guide, il revient sur pas mal de façons de jouer à Mémoire 44 et a priori, il présente aussi un certain nombre de scénarios. Donc on mettra le lien aussi, sur le site de Days of Wonder, on peut lire des extraits du livre. Voilà, donc c'est pareil dans ma liste d'achat pour fin juin, pour lire ça cet été.
Grosse news, c'est la sortie chez Istari de Olympos. En fait, il y a deux sorties chez Istari.
Ah bon ?
Oui. Ils ont sorti coup sur coup deux blockbusters. Ils ont sorti Olympos, qui est un jeu de conquête de Philippe Kiart. Philippe Kiart, c'est notre auteur de Evo.
En fait, il est sous les feux de l'actu en ce moment. Il sort Olympos, Evo et Small World Underground.
Tout
coup
à fait.
Sur coup, là, c'est incroyable.
Tout à fait. Mais Small World
et
Royalties
qui va se toucher, je te dis pas les vacances, à mon avis, au Seychelles.
Oh, il va partir au moins à Roubaix ou.
Ouais, je sais pas. Bah, au moins, ouais.
Il est belge, alors peut-être qu'il ira jusqu'à Berck.
À Dunkerque.
Ouais, c'est ça. Alors, Olympos. Olympos, c'est un jeu de conquête qui se joue à 4, mais qui peut se jouer à 2, 3 ou 5. L'idée, c'est qu'on va avoir une première carte qui représente la Grèce, et puis un peu plus bas. On va avoir l'Atlantide. Ah, et puis en plus, Istari fait bien les choses, parce que les régions qui représentent l'Atlantide sont entourées de jaune. Donc, l'idée, c'est qu'on on va conquérir les différentes régions qui ont différentes matières premières. Il y en a qui donnent de la pierre, il y en a qui donnent de l'or, il y en a qui donnent des poteries, et puis du bois. Ou de la glaise, et puis du bois. Mais la glaise, ça fait trop penser au couvent de Catane. Et il y a certaines... certaines régions qui ont une étoile dessus et qui vont permettre de créer des, enfin qui vont permettre d'acquérir des merveilles. Ça c'est le premier plateau, donc le plateau géographique sur lequel on va poser des pions et on va les déplacer. Le deuxième plateau, c'est un plateau où on va mettre en fait, c'est la partie développement, puisqu'en fait il y a deux phases dans ce jeu, c'est une phase de conquête, une phase de développement. Enfin, il y a deux options possibles dans le jeu, c'est soit la conquête, soit le développement. L'idée, c'est que on va pouvoir, avec les matières premières qu'on va récupérer des régions, acheter des développements qui vont, par exemple, nous permettre d'être plus forts militairement, qui vont nous permettre de payer moins, de prendre moins de temps pour déployer ces colons, parce qu'en fait, on a des points d'action qui sont représentés par du temps. On va avoir donc ces développements.
Et c'est le premier qui le prend, après, plus personne ne peut le racheter, c'est ça?
Voilà. Dans le jeu à deux...
Donc il y a une course.
Ouais, c'est aussi une course. Dans le jeu à deux, on a un certain nombre de restrictions et en fin de compte, ça se chicane beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je te dirais tout à l'heure. C'est le point vraiment très 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 positif de ce jeu, c'est qu'il y a une interaction qui est très forte. Et...
Je vais être obligé de l'acheter.
Oui, tu vas être obligé de l'acheter. En récupérant ce développement, tu vas aussi avoir un bonus. Le bonus, ça peut être des matières premières supplémentaires, des points de victoire, des colons ou du temps. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fin de compte, autour de la Grèce, tu vas avoir une piste qui est à la fois une piste de score et qui est aussi une piste de temps. Et comme pour... comment ça s'appelle ? Oui.
Thèbes et dans Neuland.
Insight von Thaben et dans Neuland. Comment ça s'appelle en français, Thaben ?
Thèbes.
Donc comme dans Thèbes...
C'est aussi une ville grecque, dis donc. Incroyable.
Pardon ?
La thématique, incroyable. Respect. C'est une ville grecque ?
Thèbes ?
Ouais.
D'accord. Où j'en étais ? Oui. Toutes les actions se payent en temps. Le premier qui finit arrête, qui est allé jusqu'au bout de la piste de score, va s'arrêter et les autres vont continuer à jouer. C'est-à-dire que c'est toujours le dernier au score, pas au score. C'est le dernier sur la piste de temps qui va jouer.
Ouais.
Si tu es très en retard, bah, tu vas pouvoir jouer plusieurs fois, tu vas pouvoir faire plusieurs actions. Savoir que quand tu poses un colon, ça va te coûter deux cases, deux sabliers. Quand tu vas avancer un colon d'une case, ça va te coûter un sablier. Quand tu vas découvrir un développement, ça va te coûter 7 sabliers.
Ouf.
Et l'idée, bah, c'est une gestion du temps, c'est un jeu d'optimisation où il va falloir de toute façon peser vraiment tes actions et savoir ce qui va te rapporter le plus. On n'a pas beaucoup de pions sur le plateau parce que le plateau est grand, mais on va condamner des régions. Même à 4, on va commencer à condamner des régions et à 2, c'est encore pire. Donc ça joue encore en faveur de l'interaction. Et surtout ce système qui fait que quand tu développes, tu vas gagner des bonus. Donc tu vas dire, bon, ok, je vais développer. Je veux gagner ce bonus pour pouvoir faire cette action. Et en plus, sur le deuxième plateau qui est le plateau de développement, on a les merveilles qui sont en bas. On a des lignes et des colonnes. Et en fait, les développements que tu vas prendre dans la même colonne que la merveille va venir en bonus pour l'achat de cette merveille. Je sais pas si tu es très très...
Si, je vois. Donc par exemple, dans la première colonne, si tu as acheté déjà deux développements, tu as une réduction de deux.
C'est ça.
Pour acheter ta merveille. C'est ça.
Et donc en fait, bah, tu te dis à la fois, qu'est-ce qu'il me faut pour être plus performant sur le terrain ? Qu'est-ce qu'il me faut ? Qu'est-ce que ça va me rapporter ? Est-ce que ça va me permettre de mettre un colon en plus sur le plateau ? Est-ce que ça va être dans la bonne colonne ? Enfin, c'est un jeu historique, c'est super bien fait. Alors ça, c'était dans la... Globalement, je suis super emballé. J'ai fait qu'une seule partie, mais j'ai hâte de recommencer.
Tu voudrais jouer à plus ?
Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a plus d'interactions. C'est bien pour une première partie parce que ça permet de découvrir la règle et ça permet de faire des erreurs. Je pense que... globalement, on gagne tous des points. C'est-à-dire que tu développes de toute façon. Mais il y a des choses qu'il faut faire et des choses que tu peux pas éviter de faire, quoi. Wow, c'est profond, ça. Et il y a une chose que j'ai pas dite, il y a un petit côté chaotique, c'est-à-dire que quand il y a encore quelque chose qui rajoute à l'interaction, c'est que tu vas avoir régulièrement des cartes qui sont des cartes Olympos et des cartes de destin. Les cartes Olympos, c'est des cartes qui peuvent être bénéfiques ou négatifs, bénéfique à celui qui va avoir le plus de jetons Zeus et négatif à celui ou ceux qui en auront le moins. Donc ce qui veut dire que tu vas avoir celui qui aura misé sur cette ressource en fait en jetons Zeus en faveur en fait de Dieu va avoir un bonus. Sauf qu'il y a la moitié des cartes qui sont positives, la moitié des cartes qui sont négatives. Et après, les cartes Olympos, qu'on va récupérer aussi régulièrement on va avancer sur le plateau, sont des moyens soit d'avoir des ressources, soit de gagner des points de victoire. Par exemple, il y a une carte qui dit tu la joues quand tu veux et tu vas gagner un point de victoire pour chaque région où tu vas avoir du bois. Et en l'occurrence, tu vas avoir assez peu de pions sur le terrain. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vas en avoir 5, 6, tu ne vas pas en avoir beaucoup plus.
D'accord.
Et il y a, quand on regarde en fait la table de développement, la dernière ligne, il faut 5 ressources. Donc sur les deux premières lignes, il en faut 2. Et puis sur les dernières lignes, il en faut 5. Dont des ressources identiques. Voilà, c'est d'une richesse qu'on connaît dans les jeux Istari.
C'est pas trop mécanique.
Mécanique ?
Ouais, je veux dire, c'est pas trop froid. Enfin, tu.
Non, parce que
tu vas calculer pour arriver à tes 3 ressources, machin. Si, quand même, tu calcules beaucoup.
Ah, tu calcules tout le temps.
D'accord.
Non, mais ça dépend comment tu joues.
Moi, c'est le genre de jeu que j'aime, mais il y a plein de gens qui aiment pas ça parce qu'ils se retrouvent au boulot, quoi.
Ouais, mais après, t'as deux niveaux en fait de jeu. T'as le niveau de jeu où tu dis, bon, voilà, tu calcules à 50 coups en disant, je vais faire ça, après je vais prendre ça, après je vais prendre ça. Et là, en l'occurrence, tu peux pas trop parce que. Plus tu auras de joueurs autour de la table, et même à deux joueurs, le développement que tu vas convoiter, quand tu vas connaître le jeu, ben, tu vas savoir que ça va servir à l'autre. Tu vas lui couper l'herbe sous le pied ou tu vas lui prendre. Ouais. Et plus tu auras de joueurs, et plus ce sera vrai, je pense.
D'accord.
Donc de toute façon, je pense qu'il y a une interaction qui est telle que tu ne peux pas non plus te projeter loin. Et bah, soit tu es stratégique et puis tu vas partir dans une stratégie où tu vas être guerrier, où tu vas être ceci, où tu vas être cela. Notamment, il y a deux cartes qui permettent d'aller plus vite et donc de gagner du temps quand tu vas
te développer.
Conquérir. C'est conquérir.
Ouais.
Et tu as des cartes, deux cartes, la monnaie, l'agriculture, qui vont te permettre de gagner du temps, justement quand tu te développes. Donc après, bah, il faut miser sur l'une ou sur l'autre. Et c'est vraiment un jeu d'optimisation. Mais le gros avantage, c'est que ça dure une heure et demie, et ça, c'est excellent. Et tu as vraiment l'impression, quand tu as fait ta partie, que tu as développé quelque chose.
D'accord.
Le point négatif, c'est le deuxième plateau. En fait, le deuxième plateau, c'est une feuille 300 grammes, qui est un petit peu pourrie. Enfin, tu t'attendrais à avoir... Enfin, s'il y avait eu... C'est toujours le même problème. S'il y avait eu deux plateaux, ça aurait coûté 5 € plus cher.
Bah ouais,
donc on aurait râlé parce qu'on aurait dépassé les 40 €. Parce que là, le prix nominal, c'est 40 €, même si tu peux le trouver à 35 dans tes boutiques préférées. Mais en l'occurrence, bah, ça fait un peu cheap par rapport au plateau de jeu classique. Et tu sais pas pourquoi, enfin tu sais pourquoi, mais quand tu ouvres la boîte, ça fait un peu merdique.
Faut quand même préciser que dans la boîte, il y a encore pas mal de matos en plus. Hein.
Oui, il y a des jetons,
il y a pas mal de jetons de carton, des pions en bois.
Il y a des cartes.
Ça compte aussi. Hein.
Ah non, mais c'est pas volé. Hein. C'est vraiment, c'est moi, j'apprécie. Voilà, donc c'était Olympos. Je vais faire une toute petite aparté. Olympos dans la série, ça me fait penser à. Tiens, tu peux me tenir ça, s'il te plaît. Merci. Ça me fait penser à Scylla. Scylla, c'est un autre jeu de la gamme Istari. C'est un jeu qui dure 90 minutes, 1 heure quand on est 3 et puis un petit peu plus quand on est 4. C'est très très bien aussi. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais le format me rappelle Olympos. Le fait qu'on peut vraiment faire des choix et investir sur l'un ou l'autre des façons de gagner des points de victoire, je les rapprocherai en fait. C'est des jeux qui sont complètement différents et qui ne font absolument pas double emploi. Par contre, c'est des jeux que j'apprécie surtout pour leur format qui est assez, assez court et très riche. Et j'ai pas été très long pour la digression pour une fois.
Sur Scylla ? Oui, ouais, parce que. Sur...
Non, c'est parce que en fait, Jérémy fait des gros yeux en se disant non, regarde. La montre.
Mais en fait, je sais pas, Scylla, ça m'a jamais tenté.
Pourquoi ?
Je sais pas, le look déjà, la boîte m'a jamais.
Bah, il faut que tu fasses un essai et puis.
Je sais pas, tu vois, le côté la sombre, machin, la couve de.
Oui, tu sais, mais c'est la Rome antique et c'est pas très très. C'est pas très très beau ce qui s'y
pas
passe.
Folichon.
C'est pas folichon. Puis Jérémy, je pense que c'est le moment de parler un petit peu de notre sponsor qui est Philibert en ce moment.
Alors, on vous a déjà parlé de plein de choses sur Philibert. On vous a déjà parlé de leurs services, de leurs choix. On va vous parler cette semaine des prix, et notamment les ventes flash. Donc,
les prix rouges ?
Il y a les prix, bah alors, les prix rouges, c'est juste des prix planchers, on va dire, sur des jeux. Mais ils ont aussi les ventes flash qui sont réutilisées très, très régulièrement. On pourra même pas vous dire quelles sont les bonnes opérations d'aujourd'hui, parce que j'avais regardé, elles s'arrêtent toutes ce soir. Donc, si je vous annonce les bons prix du soir, ben, vous les aurez plus en écoutant ce podcast.
Donc, il faut aller voir.
Donc, il faut aller voir régulièrement, voilà, les ventes flash. Alors, c'est du déstockage, hein. C'est pas non plus la dernière nouveauté qui est en vente flash. Mais, ça permet d'avoir des bons tarifs. Par exemple, Mansion of Madness qui vient d'être enfin arrivé en français. Du coup, ils sont en train de déstocker les versions anglaises. Donc, ça permet de les toucher, je crois, de mémoire, à 50 euros au lieu de 70.
C'est intéressant, donc.
Voilà.
Oui, alors on parle du prix, mais ouais. Philibert, c'est pas que le prix, c'est le service aussi.
C'est le service. Alors, le service, c'est une livraison toujours rapide. Ils répondent par mail très rapidement à toutes les questions. Et en cas de souci sur une commande, ils n'hésitent pas aussi, ils sont très arrangeants. Il n'y a jamais de... Enfin, il n'y a jamais de litige qui dure bien longtemps avec eux.
D'accord. Donc, notre conseil, servez-vous chez Philibert. Puis Jérémy, on va parler un petit peu de ce qui se passe un petit peu plus proche de nous. Moi, j'ai noté trois choses dans l'actualité. La première, c'est l'ouverture d'une nouvelle boutique à Thiers, dans le 63. C'est ouvert du mardi au samedi, 10h à 19h, et puis le dimanche après-midi. Et il y a des nocturnes le samedi et le dimanche de 20h à 20h.
Non, vendredi, samedi.
Vendredi, j'ai dit quoi ?
T'as dit samedi et le dimanche. Dimanche, non.
Non, pas le dimanche. Vendredi, samedi, de 20h à 1h. Donc, certainement, beaucoup d'animation. Vous trouverez ça, c'est route Sainte-Marguerite à Thiers. Puis le reste, ce sera sur notre site. La deuxième chose, c'est une porte ouverte le samedi 2 juillet à 20h30, École des Remparts. Ça se trouve à Rosheim, dans le 67, donc c'est en Alsace. C'est 4 avenues du Maréchal Foch, à Rosheim. C'est une initiation gratuite aux jeux de plateau et aux jeux de stratégie. Vous pourrez jouer au Clan de Catan, bien sûr, à Saint-Pétersbourg, au Palais de la Terre, au Pilier de la Terre, à Fuchsenschlag. Si vous voulez un peu plus d'informations, si vous avez envie de participer, vous pouvez appeler 06 02 36 33 08, 06 02 36 33 08. Et puis ça se passe donc le samedi 2 juillet à 20h30. Il faut y aller, si vous êtes dans le coin, il faut aller soutenir les initiatives locales.
Et ils se réunissent quand même aussi tous les mercredis à 20h30.
Oui.
En plus. Donc avec ça, si vous êtes dans le coin, vous n'avez aucune raison pour ne pas y aller.
N'hésitez pas. Le troisième événement, ça s'appelle Tapas Jeu. C'est l'Espagne à Rouen. C'est du mardi au jeudi de 11h30 à 14h30. Enfin, en semaine de 11h30 à 22h. Avec une nocturne le vendredi jusqu'à 2h du matin, le samedi également. Et puis, le concept, bah, c'est, comme son nom l'indique, tapas en juego, des jeux et des tapas. Et ça aussi, c'est pas mal, parce qu'à Rouen, c'est pas mal d'aller manger des tapas.
Eh ben, on est prêt pour démarrer les écrans, mon grand ?
Ouais, on est prêt.
Alors,
accrochez-vous, parce que là...
Alors, on va commencer par une news rapide, parce que je l'ai raté il y a deux semaines. C'est Mémoire 44 Online, qui est sorti enfin en version, on va dire, en release 1.0. C'était sorti le 6 juin, on avait oublié d'en parler la dernière fois, mais...
Tu veux dire qu'ils sont plus en bêta test au bout de 2 ans ?
C'est ça. Alors, donc voilà, donc il est sorti en version complète. Donc, je sais pas si ça change grand-chose, à part que... Parce qu'à mon avis, les dernières bêta, elles étaient quand même pas très buggées. Donc petit rappel du jeu, donc dans Mémoire 44 Online on peut jouer au principe à toutes les cartes du jeu de base essentiellement. C'est un mode plus ou c'est un jeu qui est gratuit au début, mais ensuite il va falloir payer pour avoir le droit de faire plusieurs parties. En fait c'est un système de lingots, donc on a 50 lingots, et chaque fois qu'on va lancer une partie en mode solo contre l'ordinateur ou bien contre d'autres joueurs, ça va nous coûter des lingots. Après il est possible de racheter des lingots au prix à partir de 8 euros. pour pouvoir plus jouer. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que en théorie, il sera possible d'acheter de quoi jouer au mode expert. Donc, le mode expert, ça permet de jouer au scénario, des extensions, etc. Enfin, ça permet d'ouvrir un peu plus le jeu. Mais le mode expert n'est pas terminé. Alors, je pensais justement qu'il serait terminé avec cette version.
Avec le lancement de la 1.0.
La 1.0, mais non. Alors, donc voilà. Donc, le jeu, il est multiplateforme, parce que c'est du Java, donc il tourne sous Linux, sous Windows, sous Mac. Il n'y a pas de problème. Il y a une IA aussi qui permet de jouer de pouvoir jouer tout seul. Et puis on peut jouer en ligne avec tous les joueurs qui sont déjà en ligne. Donc par exemple, en ce moment, à 22h30, j'ai 130 joueurs qui sont en ligne. Donc c'est pas mal, ça permet de faire pas mal de... On peut retrouver du monde pour jouer et d'envoyer des invitations aux personnes pour faire des parties.
Oui, c'est un peu le même système que pour les aventuriers du rail où t'as une grosse communauté qui existe. Tu peux faire une partie assez rapidement, en fait. Quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit où tu te connectes, tu peux faire une partie grâce à cette communauté-là.
Donc voilà. Donc après, si vous aimez bien Mémoire 44 et que vous cherchez des joueurs parce que vous ne trouvez pas toujours quelqu'un pour jouer, ou bien vous voulez lancer une partie rapide parce que c'est vrai qu'il peut en sortir le plateau, le matériel, etc. Une partie est tout de suite lancée. Voilà, c'est pas mal. Les 50 lingots du départ, ça permet de bien voir ce que vaut le jeu, etc., avant de se décider si on en achète plus. Pas. Le regret, c'est par contre que dans le mode actuel, il n'y a que les cartes de base et pas quelques scénarios.
Oui, c'est dommage.
Donc c'est un petit peu limitant.
Regrettable.
Ouais, espérons que la version expert arrive rapidement.
Enfin, c'est pareil, je pense qu'ils sont quand même sur le développement de leur jeu et qu'ils vont vite y venir.
À toi ?
À moi ? Alors, je vais vous parler de Double. Double sur iPhone. Je ne pense pas que ce soit sur iPad. Ça vaut 0,79 centimes. C'est très rigolo. Le concept de Double, c'est qu'on a un nombre important de cartes sur lesquelles on va trouver 8 symboles. Ça peut être une lune, ça peut être un zèbre, ça peut être un fantôme, une encre, des choses comme ça.
Il y a 22 symboles, je crois.
Il y a 22 symboles. Et puis, quand on prend deux cartes, on a toujours un symbole identique. Et donc, l'idée, c'est un jeu de rapidité. Et il faut retrouver quel est le symbole qui est identique sur chaque carte. C'est tout. Donc en fait, là, il y a deux modes de jeu. Il y a un mode, à chaque fois, on va avoir sur l'écran deux cartes. Soit on joue tout seul et en temps limité, il va falloir faire tourner le plus de cartes possible. Soit on joue avec un autre un adversaire et puis il va falloir que le premier, en fait, qui trouve le symbole qui est sur la carte, remporte la carte et remporte le point. Celui qui a le plus de points gagne. C'est aussi simple que ça.
Dans le jeu de société, dans la boîte métal, il y a 5 modes de jeu. Là, alors, en fait, on n'en retrouve qu'un.
C'est-à-dire, il y a quoi comme mode de jeu ?
Il y a plusieurs modes. Il y a un mode où tu dois... Le mode le plus simple, tu as une carte au début, tu as une pile au centre. Et chaque fois que tu trouves le symbole... Enfin, tu dois comparer ta carte et la carte qui est sur le dessus de la pile. Si tu trouves, tu récupères la carte de la pile et ainsi de suite jusqu'à ce que la pile ait été défaite. Il y a une autre version où c'est l'inverse. Tu as une pile de cartes et donc on met une carte au centre. Et chaque fois que tu trouves... Le symbole qui est identique entre la carte au centre et la carte sur ta pile, tu mets la carte de ta pile au centre et le premier qui a fini sa pile a gagné. Il y a des modes où il faut se refiler les cartes d'un joueur à l'autre.
Oui, alors il y a un mode qui s'appelle patate chaude, donc je suppose que c'est celle-là.
C'est pas mal, ça c'est assez...
Il y a trois modes. Il y a un mode normal, un mode qui s'appelle patate chaude et l'autre qui s'appelle, faut y arriver, point de contrôle. Mais j'ai pas encore déverrouillé j'ai pas eu le succès. Donc je peux pas dire.
Pas assez joué pour l'avoir, d'accord.
Non. Non, mais c'est. Pour moi, c'est 79 centimes, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est un truc que t'as, que tu peux passer 5 minutes, 10 minutes quand t'attends le bus, quand t'es quelque part avec ton gamin et que. Plutôt qu'il braille, qu'il court dans tous les sens, tu fais jouer à Double et puis il est content. Tu vois, c'est ça.
Surtout qu'à ce prix-là, on va peut-être en reparler un peu plus tard dans le.
Oui, on va en parler
dans ce numéro.
Un petit peu plus tard.
Mais c'est pas cher du tout, effectivement.
Voilà, donc Double, je le conseille. Ça passe 5 minutes, c'est pas révolutionnaire, mais pour le prix, ça c'est bien. Ça les vaut. Viking Lords ?
Alors, Viking Lords. Alors, au départ, on n'avait pas une actu très, très chargée cette semaine. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de parler de Viking Lords.
Au départ.
Ouais, parce qu'au final, on a quand même une actu écran assez chargée. Viking Lords, en plus, ça tombe bien par rapport à ce numéro, parce que c'est encore un jeu basé... inspiré, on va dire, du Command & Colors de Richard Borg. Donc c'est quand même franchement inspiré de Battle Lore. Il n'y a pas la magie. On joue.
Tu es en train de me dire qu'on est en train de faire de la pub pour une contrefaçon.
Non, c'est pas une contrefaçon. Ils ont changé 2-3 points. Ils ont changé les choses. C'est quand même pas. Mais.
C'est pas marqué Battle Lore dessus, donc tout va bien.
C'est un peu ça. Tes unités, elles n'ont pas forcément 4 cubes, elles peuvent en avoir plus. Elles ont des caractéristiques un petit peu différentes. Mais globalement, le jeu, c'est le même. C'est-à-dire que le plateau est découpé en 3 zones. Et puis, on a des cartes qui vont nous permettre de donner des ordres. Par contre, les cartes, elles sont simplifiées par rapport à Battle Lore. On n'a que des cartes section, on n'a pas de cartes tactiques. Donc, on va juste dire bouger des unités. Bleu, verte ou rouge, ou bien 3 à gauche, 3 au centre, etc. Les unités, c'est pareil, on a des archers, on a des chevaliers, on a des hommes à pied, et puis on va affronter, ensuite on va avoir quelques créatures un petit peu magiques aussi. Ah,
c'est bien ça.
Bah, je sais pas, ouais, enfin j'en ai vu, mais je les ai pas encore. J'ai eu un scénario où j'avais un dragon, mais je pouvais pas le bouger, je sais pas. Je suis pas allé très très loin dans la campagne pour l'instant. Voilà, donc il n'y a pas la magie. Il n'y a pas le côté lore de Battle Lore, il n'y a pas tout ce qui est magie, etc. On voit pas les dés qui se lancent.
Oui, mais ça, enfin, la partie magie, c'est un petit peu normal, c'est complexe à mettre en place.
Oui, non, non,
c'est-à-dire, gérer, faire de la main, du management de main de carte, le faire facilement, hein, puisque tu le fais avec Ticket to Ride, t'as tes différents. Comment ça s'appelle?
Tes objectifs.
Ouais, t'as tes objectifs et tu peux choisir l'objectif que tu vas faire, tu peux passer d'un objectif à l'autre. Donc tu pourrais très bien dire, j'ai un crédit de l'or et je veux utiliser cette carte-là. Ça veut dire un développement qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important.
Bah voilà, donc là, non, il n'y a pas. Et puis, enfin, moi, ça ne me gêne pas, en fait. La magie, c'est pas forcément ma passion de Battle Lore. Donc... Le jeu est sympa à prendre en main, c'est assez facile. Par contre, il n'y a pas de undo. Donc, si on a fait un mauvais déplacement.
Tant pis pour toi.
C'est tant pis. Donc, il faut quand même bien faire attention au début, parce que des fois, on ne sait pas trop la portée des unités d'archer, par exemple. Donc, bon. Donc, le jeu, il peut se jouer en mode campagne. Il y a aussi un mode skirmish en anglais, donc ça doit être escarmouche. Alors, le jeu est en anglais aussi, évidemment.
C'est ça.
Escarmouche, donc c'est l'occasion de lancer une partie rapide en fait hors campagne. On peut jouer, on choisit son camp. Par contre, on peut pas jouer sur toutes les cartes. Il y en a qu'un certain nombre de proposés. On peut jouer les Anglais ou les Vikings, et on peut aussi jouer à deux sur le même iPad. C'est quand même pas mal.
À deux, l'un contre l'autre.
Ouais, l'un contre l'autre. Donc bien sûr, c'est un système où on est censé se passer l'iPad du coup quand à son tour, parce qu'il y a les cartes qui sont présentées devant nous. Et on peut aussi jouer en mode en ligne contre d'autres joueurs directement. Il y a une petite communauté de joueurs, hein. C'est pas un jeu qui est très connu, mais il a un gros avantage, c'est son prix, il est qu'à peine à 1,59€ sur iPad.
Quoi ?
Ouais.
C'est son prix ? C'est son l'avantage prix. Non, si tu m'avais dit, bon, gros avantage, il est gratuit. Mais non, il vaut 1,59€.
Ouais, mais par rapport à pas mal de jeux qui sont à 5€, ça permet quand même de jouer à l'équivalent du Battle Lore, etc. Bon, maintenant, les inconvénients, il est en anglais, et l'IA est pas très forte, et on rencontre aucune grosse difficulté à la battre.
C'est vrai ?
Bah pour l'instant, les scènes de la campagne, je les ai fait. À chaque fois, j'ai réussi à les passer facilement. Il y a deux modes de jeu, un mode facile, un mode difficile. En fait, j'ai l'impression que le mode facile, c'est des règles simplifiées. Le mode difficile, bon, c'est celui que je joue.
Ah, tu veux dire que le dosage de l'IA est pas terrible, en fait ?
Non, ouais.
D'accord.
Mais c'est fait par des fans. Hein. Enfin, c'est pas. Ils annoncent pas officiellement Battle Lore dans leurs inspirations. Ils disent qu'ils sont inspirés de plusieurs jeux, mais c'est quand même très très nettement. Voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. C'était une agréable découverte quand même, hein, en sachant que tu peux jouer en ligne, tu peux jouer à deux sur la même machine. Voilà. Donc l'autre inconvénient, c'est l'anglais. Je pense pas que ça gêne beaucoup de monde parmi ceux qui nous écoutent, mais on sait jamais.
Tu nous parles également de 7 Pro.
Ouais. Alors 7. Est-ce que tu connais 7, le jeu de cartes ?
Je connais de nom.
T'as jamais joué à 7 ?
Non. Alors, je mens. J'ai joué à 7, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable.
Alors 7, c'est un jeu un peu spécial, c'est un jeu de rapidité. Et ça va être un jeu...
C'est peut-être pour ça que ça m'a pas laissé un souvenir impérissable.
Ouais, y a pas que ça, c'est qu'il est pas facile au départ pour comprendre comment ça marche. En fait, il y a des cartes, il y a, je sais pas combien il y a de cartes dans le paquet, donc sur les cartes, il peut y avoir une, deux ou trois figures.
Les figures, c'est
qui sont de formule antique, donc ça peut être des losanges,
des vagues,
ovales, une vague, voilà. Elles peuvent être de trois couleurs différentes, violet, rouge, vert, et leur texture peut être différente. Ça peut être hachuré, plein ou vide. Là-dessus, il va falloir, on va mettre sur le plateau, on va mettre 12 cartes, et il va falloir trouver un set. Alors un set, c'est quoi ? C'est un ensemble de trois cartes pour lesquelles dans chacune des catégories, donc figure, enfin forme, couleur, nombre, texture, elles sont ou toutes identiques ou toutes différentes.
D'accord. Donc je veux un losange bleu et deux vagues rouges et trois bâtons bleus. C'est ça ?
Enfin ouais voilà.
Et là j'ai mon set.
Ouais, et là ça fait un set.
D'accord.
Voilà. Donc c'est tout, c'est un jeu de rapidité, il faut nous montrer les cartes, si ça fait bien le 7, on récupère les cartes, et ainsi de suite, on remplace les cartes qu'on a enlevées du plateau, on les remplace par trois autres cartes, et la partie continue. Donc vous l'aurez compris, c'est un jeu pour pas pour tout le monde, il y a des joueurs qui vont être plus rapides que d'autres, donc il y en a qui n'aimeront pas le jeu, je crois qu'Olivier c'est ton cas, tu n'aimes pas trop les gens câblés.
Tu veux dire comme un peu comme Razen de Roboteux? Ricochet Robot.
Ouais, Ricochet Robot. Ouais.
Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vas avoir une telle différence d'expérience et telle différence de maîtrise du jeu que les novices qui vont arriver sur le jeu, ils vont rien paner, quoi.
À 7, c'est un petit peu différent de Ricochet Robot parce que Ricochet Robot, il y a une technique effectivement pour faire rebondir ses robots, etc. Alors que là, c'est quand même vraiment, c'est du coup d'œil, quoi. C'est impressionnant.
Tu veux dire, c'est encore pire.
C'est-à-dire ouais,
il faut pas réfléchir au set, il faut le voir comme ça.
Si tu le vois pas, si tu commences
à faire
tourner fermer
l'œil et puis le rouvrir très vite en regardant un peu.
Ouais. Faut regarder dans le flou.
Ouais, c'est ça.
En louchant.
Tu regardes à côté et puis si tu vas voir apparaître le set.
Des fois, c'est presque ça.
Ouais, mais non. Là.
Donc voilà. Alors.
Bah, c'est pas le seul défaut de ce jeu, je pense.
Non, son autre défaut, c'est son prix.
Ouais, son prix.
Son prix qui est à plus de 5€ sur iPad, alors qu'en sachant que les versions...
5,99€ ? Tu veux dire presque 6 en fait ?
Non, je pense que c'est 5,49€.
5,50€, ok.
Ah, tu vois,
psychologiquement, on est plus proche de 5 que du 6, ouais, c'est ça.
Bon bref, c'est pas nous qui fixons les prix ?
Bah non, mais c'est des cachons, quoi. Moi, j'achèterais pas. 5,49€ pour 7, j'achèterais pas.
Bah non, t'aimes pas.
Et non, mais c'est, si tu veux, t'as le jeu de société, le 2 cartes qui est à 9€, t'as le jeu vidéo qui est, enfin, jeu sur iPad, le portage, ok, ça a demandé du développement, 5,49€, ok, avec tes cartes, tu vas pas pouvoir jouer dans le train, tu vas pas pouvoir jouer aux toilettes, tu vas pas pouvoir jouer, et puis peut-être qu'il y a un mode contre l'ordinateur.
Différents niveaux de challenge et machin. Ouais.
Il compte les sets que t'as fait en moins d'une minute ou un truc comme ça.
C'est ça, ouais.
Mais
il y a plein de modes comme ça, marathon et tout. Mais bon.
Pas exagéré.
Mais je suis d'accord, hein, effectivement. Bah non, bon. Le jeu de cartes.
Non, t'es pas d'accord.
Quoi ? Bah si, c'est cher. Mais c'est bon à savoir quand même, on sait jamais, il y en a peut-être qui sont tentés.
Voilà, 7. Enfin, 7 est un bon jeu.
Vous voulez vous entraîner discrètement ? L'ordinateur, il a l'avantage de toujours savoir quand est-ce qu'il n'y a plus de 7. Alors que des fois, les joueurs, on est autour de la table, on regarde pendant longtemps, on dit « Ah bah là, je crois qu'il n'y en a pas ». Mais personne, enfin, si personne n'en a vu, il y en a peut-être un, mais on ne l'a pas vu. Voilà. Bon, mais effectivement, c'est un petit peu cher. Je te laisse enchaîner ensuite sur Cartagena.
Non, je... Alors, Cartagena est sorti sur iPhone, mais j'ai fait l'impasse. J'ai trouvé ça trop moche, en fait. Je trouve que le jeu de société Cartagena est très joli. Et là, les illustrations que j'ai vues n'étaient pas assez belles. Donc,
ça ne reproduit pas l'illustration du plateau.
Pour 2,99€, bah, je sais pas. Non.
Il m'a semblé que c'était les mêmes illustrations.
Non, c'est tout moche. Ah, c'est très joli, Cartagena. Quelle que soit l'édition, parce qu'il y a plusieurs éditions.
Là, c'est le premier, là, Cartagena. Il l'appelle vraiment comme ça. Il s'appelle vraiment Cartagena 1, si vous le cherchez sur l'App Store.
Oui,
alors, il est quand même à 2,99€ pour un jeu iPhone.
Oui, c'est cher.
Moi, je trouve dommage, à chaque fois, là, ils sortent une version que iPhone. Pourquoi il n'y a pas la version iPad dedans ? L'iPad offre un plus grand plateau pour jouer à ce genre de jeu, ça se prête bien.
Tout à fait.
Tu te rappelles un petit peu de la règle de Cartagena ?
Oui.
C'est un jeu de parcours. Donc
c'est ça.
Les joueurs doivent s'échapper de la prison de Cartagène.
Tout à fait.
En Espagne, Portugal.
Là-bas.
C'est pas. Et donc ils doivent s'échapper pour rejoindre une barque. Seulement, il n'y a que les trois premiers qui réussiront à s'échapper. Le premier, je sais plus.
C'est le graphiste du jeu de base, mais moi ça m'a pas plu. Donc je dois pas avoir. En fait, je dois pas avoir le premier.
Non, après, il a bénéficié de meilleurs graphismes dans les autres éditions.
C'est pour ça. Ah, ouais. Et on se demande pourquoi ils ont pris le vieux graphisme, parce que ça a dû coûter moins cher en licence. Mais bon, non, en fait, c'est un jeu un peu la lièvre et la tortue. Pour avancer, il y a des symboles, un certain nombre de symboles. Tu vas avancer ton pion, celui que tu veux, sur le symbole de la carte que tu vas défausser. Donc si tu défausses une clé, tu vas avancer sur le symbole clé le plus proche. Pareil, si tu défausses un drapeau, tu vas aller sur le drapeau le plus proche, etc. Donc en fonction de l'occupation des symboles, bah, tu vas bien gérer ta main. Et puis, pour gagner des cartes, eh ben, tu vas reculer. Si tu recules sur... j'espère pas vous dire de bêtises. Si tu recules sur un groupe, enfin, tu vas reculer vers le pion le plus proche. S'il y a un pion, tu pioches une carte. S'il y a deux pions, tu pioches deux cartes. C'est le principe.
Voilà. D'accord, et c'est un bon jeu d'ambiance.
C'est un bon jeu. Alors déjà, la version sur iPhone, le fait que soit c'est
Léo Colovini,
a priori petit.
Ouais.
Tu as fait la remarque pour quoi déjà? Pour quel jeu?
Pour celui-là, sur l'iPad, il gagnerait.
C'est ça. Ouais. Non, t'as pas fait la. Non, mais ce soir, t'as pas fait la remarque sur un autre jeu?
Pour Double aussi.
Sur Double, voilà.
Ah, mais pour Cartagena, c'est pareil. Enfin,
ah, mais oui, c'est
Cartagena,
incroyable.
Encore plus que Double, tu se prêtes vraiment plus à l'iPad.
Et puis après, ben, c'est une petite boîte, Cartagena, ça s'emmène partout, c'est pareil, quoi. Mais bon, c'est 2,99€.
Ouais.
C'est un vrai jeu. Non, mais voilà.
Oui,
quoi,
je suis d'accord. Oui, t'as un vrai jeu.
C'est un vrai jeu, quoi.
Par contre, là, ouais. On l'a pas testé, donc du coup, ça se trouve, tu peux pas jouer à 4 dessus. Il faut te passer l'iPhone pour gérer les cartes.
Ouais. Alors, Cartagena, c'est un bon jeu. Peut-être pas très adapté à l'iPhone, un peu plus à l'iPad. 2,99€, si c'est une version iPad, c'est très bien. Et les graphismes, ils auraient pu quand même un peu taper dans les plus récents, parce que c'est les premiers, c'est pas les plus jolis.
Et il est encore édité, il y a eu un Cartagena 3 qui est sorti, je crois, l'année dernière.
Alors, il y a plusieurs versions de Cartagena. Cartagena. T'as une version où tu recules et t'as une version où tu fais avancer les autres. Et c'est un jeu c'est la même chose, mais c'est complètement différent, en fait.
C'est pour ça qu'il y a Cartagena 1, 2, 3.
C'est possible.
D'accord, effectivement, ils ont fait un petit peu évoluer les règles. C'est un peu comme Dirk N, en fait, chez Queen Games, là, à chaque fois qu'ils ressortent ces jeux.
Pardon ?
Dirk N, notamment Alhambra, c'est un remaniement d'un autre jeu qui avait déjà été remanié une fois, et ainsi de suite.
Ouais,
il remanie régulièrement.
Ouais, sauf que là, ça reste Cartagena. On en vient à la pièce de résistance, au gros morceau de ce podcast numéro 8.
Un jeu qui est vraiment tout le monde l'attendait depuis longtemps.
Incontournable.
Un jeu vraiment pour les joueurs. C'est
le
Milborne.
Le Milborne. Mais
incroyable.
Mais je n'ai que
le
trois mots à dire. Mais what the fuck?
Trop fort.
Mais quoi?
Alors, rappelons quand même que TF1 a racheté du jardin il y a 2 ans. Que depuis, ils ont décliné la gamme Milborne. Ouais. Ils ont décliné la gamme Milborne de partout à toutes les sauces. Une version jeu de plateau. Maintenant, il y a les licences, le Milborne Cars, etc. Donc, il paraissait logique qu'il débarque à force sur l'iPad.
Ouais, mais attends, mais c'est super moche. Parce que ça veut dire qu'après le Milborne, on va avoir le Trial Poursuite.
Avec un peu de chance, on aura Squad 7 et Monstre Folies.
Non. Non, non. ça serait beau, mais non. Et après, on va avoir Cranium. Hein? Après, on va voir Pictionary. Non, mais il faut y arrêter, je veux dire. Puis 5,49€, on en revient toujours au même. Quoi.
C'est 5,49€, c'est un peu cher. Bon, après, le jeu.
Je reviens sur ce que je disais l'autre fois, c'est que le problème, c'est que. Quoi?
Il est mignon, regarde.
Oui, il est tout mimi. Mais.
Bon, par contre, c'est toujours aussi inintéressant comme jeu. Quelle horreur.
Et le problème, c'est que on a une inflation des jeux sur iPad, on a un prix des jeux qui augmente de plus en plus.
Alors,
on a un prix moyen qui va se retrouver sur iPad plus près des 5€ que ce qu'il était avant, plus près des 3€. Et ça, c'est pas bien.
Alors, pour ce jeu-là, c'est pas du Jardin qui l'a fabriqué, qui l'a fait faire. A priori, il a été réalisé par un autre studio.
Et
donc, c'est pareil, il y a une licence à payer.
Quand tu regardes toute la série des jeux qui a été toute la série des jeux de Knizia qui a été portée sur iPhone, iPad, bah, t'es plus près des 2,99€. Ça peut aller jusqu'à 4€, 3,99€, mais c'est rare. Mais la moyenne, c'est 3€.
C'était la moyenne.
Oui, voilà, bah, c'est bien ce que je suis en train de dire.
Puis,
c'est
bon, on a quand même les records, c'est quand même Carcassonne à 8€.
Quoi après... Carcassonne à 8€?
Ah ouais, Carcassonne, c'est 8€ et il est sorti il y a un moment.
J'avais oublié, tu vois, j'avais complètement oublié que Carcassonne, c'était ce prix-là.
Et ouais, il est en version universelle. Non, je crois même pas s'il est lancé en universelle. Au départ, il existait que sur l'iPhone. Après, ils l'ont porté sur l'iPad. Après, y a les jeux des offenders aussi qui sont tous à 5 euros. Hein. Small World,
ouais,
mais, mais ils sont super bien réalisés.
Alors d'abord, ils sont très bien réalisés. En plus, c'est des vrais jeux. Quoi.
Voilà.
Je veux dire, tu peux pas comparer 7 ou tu peux pas comparer le 1000 bornes. Tu vois, enfin. Bon, voilà quoi.
Ouais, bon. Tu veux... Regarde, Destin Jeu de la Ville est sorti à 5,49€.
Et ben voilà, et ben voilà. Et on en revient toujours au même. La
ouais.
Merde, c'est cher.
C'est ça. Mais bon, là, ouais, il vise en plus.
Quoi il y a... Attends, Destin Jeu de la Vie, ça existe sur.
Ouais, c'est aussi nul que le jeu de société.
Non, mais
le
c'est truc... pas, c'est
non,
pas
mais
nul.
Non, mais il y a le vrai concept de l'iPad. C'est-à-dire que tu fais tourner la roue avec la main sur l'iPad.
Ah,
ah ouais. Mais effectivement, non, c'est rien d'exceptionnel. Ouais. Heureusement, il y a plein d'autres jeux moins chers, mais c'est vrai que ces derniers temps, les jeux, l'inflation, elle y est. Hein. Regarde, on parlait du Time's Up l'autre fois qui est à 5€ quand même. Il faut racheter ensuite des cartes. Il y a eu Tikal qui est sorti pareil à 4€. Alors, il y a eu Ace That Smash Fish qui est à 4€, mais c'est pareil, je trouve que lui il mérite. Il est vraiment. Ça vaut le coup de l'avoir. On peut jouer à 4 sur le.
Ouais, mais là, on rentre dans le. Comment ça dit ? On rentre dans le subjectif.
Ah bah oui.
De dire
ouais,
que Hey That's Match Fish, il vaut les 4€. De dire que...
Bah Bonanza par exemple, qui est vendu à 4 sur iPad et 3 sur iPhone, je trouve que c'était moins...
Bah déjà il est pas universel, donc ça c'est un gros problème. Enfin là tu voilà, déjà tu rentres dans une autre problématique de dire tu vends deux fois le même jeu.
Ouais.
Enfin après tout le monde, on n'est peut-être pas représentatif de la population des gens qui ont des iPhones et des iPads. En général, t'as peut-être un iPhone ou un iPad, mais je sais pas. Enfin voilà, moi ce que je déplore, c'est un, que on ait des daubes qui arrivent sur nos devices, et deux, que ce soit les plus chers. Et
oh,
que,
attends, des daubes, 1000 bornes, au moins il est bien réalisé, on peut pas critiquer. Non, mais attends, j'ai joué à des jeux, t'as déjà testé Corridor ?
Non.
Corridor, un jeu de société, c'est un excellent jeu.
Tout à fait.
Mais le Corridor qui est sorti sur iPad, mais c'est une infamie. C'est un truc, mais je comprends même pas comment il a été validé par Apple.
Parce qu'il rentre dans la...
Ah non, mais c'est ignoble. C'est un truc très mal programmé en OpenGL. Enfin, c'est une cata. Et c'est vendu de 39. Je te déconseille très fortement de craquer un jour pour ce jeu. Hein.
Non, bah c'est bon. Je l'ai à la maison, donc tout va bien.
Voilà.
Ok. Bon, bah on va peut-être s'arrêter là sur mes râleries ce soir.
Oui, hein, la polémique, ça suffit.
Non, ça va. Bah, non, de toute façon, je pense que dans l'actualité, on aura encore pas mal d'occasions de râler
ouais.
Sur le prix des jeux. Comme dirait
oh.
Jimmy, this is the end.
Bon. Superbe.
Eh, je mettrais peut-être. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas mis de,
ah bah mais,
de musique.
Maintenant.
Je vais vous mettre un petit peu ça. Là. Alors, chers joueurs, chers joueuses, j'espère qu'on ne vous a pas trop saoulé cette fois-ci. J'espère que vous aimez les jeux de confrontation parce qu'on vous a beaucoup parlé de Command & Colors et de tous ses dérivés.
Si ça vous a vraiment plu, on pourra vous faire un dossier complet.
Oui, on peut. Alors, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire. Olympos, il faut l'essayer à minima, même si, il faut pas penser à des jeux comme ça. C'est même si c'est compliqué, c'est abordable pour tout le monde. Histaria a le chic pour faire des choses qui sont profondes mais abordables. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle qu'il y a à Rouen et puis, alors je vais ouvrir ma petite news parce que. Je l'ai plus sous les yeux.
Ah,
et
Rochheim.
À Rochheim, dans le 67,
Rochheim.
En Alsace, vous avez deux lieux à visiter, au moins, en ce moment. Et donc, je vous rappelle.
Surtout, c'est très important.
Le concours.
Non, mais le concours, c'est pas gênant. Ils ont
si,
déjà...
si, le concours, il faut répondre. Répondre où travaille cet informaticien qui me sert de compère. Et surtout, n'oubliez pas le 4 juillet, le live. Donc là, on a fait un petit essai. Il y a quelques personnes dans la chatroom. On voulait que techniquement, ça roule. Je les remercie. Je remercie Clément. Je remercie Natacha et surtout Romain qui est resté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous le 4 juillet. Et puis quelques des gens chez toi aussi, Jérémy.
Ben on peut.
Et puis des gens chez toi. Alors Jérémy, Romain, si tu veux venir, on paiera un coup à boire si tu veux venir.
Ouh là, il va falloir prévoir un paquet de bière au frais.
Voilà. Ben en attendant, bon jeu.
Oui, bon jeu à tous.
Et puis à dans 15 jours.
À dans 15 jours.
Salut.